Qu'est-ce qui me reste comme souvenir, c'est c'est déjà que je suis là. Sinon, je me souviendrai de rien. C'était le Vendée Globe 2008. On était à 200 000 du Cap Horn.
J'étais lancé à grande vitesse vers le Cap Horn, à l'avant d'une dépression, avec des conditions qui me permettaient pour une fois d'aller vite. J'étais en train de communiquer tranquillement avec la Terre, et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais prendre des nouvelles de mon ami Jean Lecam, qui avait son téléphone satellite, et j'attaque une discussion avec Jean. Alors Jean, on s'appelait de temps en temps pendant ses tours du monde, hein. Ça fait peut-être une dizaine de jours que je n'avais pas eu de nouvelles de lui.
Et j'étais au téléphone avec Vincent. Tout d'un coup, j'ai eu une espèce de choc, mais pas de violence.
J'entends Jean commencer à râler, à gueuler. Merde, c'est quoi ce bordel ? Des trucs assez désordonnés. Et hop, la communication se coupe.
Bon, bah là, tu te dis, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est sûr. Le bateau s'est tranquillement aplati sur l'eau. La voile s'est couchée sur l'eau. Le bateau se retourne, se met à l'envers. L'eau rentre dans le bateau. J'enfile ma combinaison de survie. Et puis, j'essaye de récupérer à l'envers tout ce qui pourrait me servir dans le futur. Pharmacie, sopalin, des vêtements chauds.
En ce mardi, eh bien, l'information, c'est bien entendu le chavirage du bateau de Jean Lecam, VM Matériaux, qui a chaviré dans la nuit.
Nous sommes le 6 janvier 2009. À la barre de VM Matériaux, son puissant monocoque de 18 mètres, Jean Lecam s'apprête à doubler le Cap Horn. Toujours en troisième position de ce sixième Vendée Globe, il pourra alors entamer la remontée de l'Atlantique jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne. Quand soudain, il chavire. À bord de PRB, Vincent Rioux, 200 000 derrière le cam, va se précipiter pour lui venir en aide.
Au bout de 5 minutes, je refais une tentative et là, je tombe sur le petit message vocal du téléphone satellite déconnecté du réseau. Je me raisonne, je me dis, bon, il s'est peut-être passé quelque chose, mais il ne s'est peut-être rien passé. Peut-être que voilà, il n'a pas réussi à me réavoir, il a coupé son téléphone par satellite, comme on faisait tous, parce que ça consommait beaucoup d'énergie sur le bateau. Au bout d'un moment, je me dis quand même, c'est bizarre tout ça. Et donc j'appelle mon attaché de presse à Paris. J'ai un mauvais pressentiment sur Jean, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose.
Voilà, l'eau est montée, donc moi je suis passé dans le compartiment sous ta voile à l'avant. Et puis là, le cabot de soute s'est ouvert. Bon, donc, redéménagement de tout le matériel, encore plus en avant. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que, comme le bateau monte et descend, ça fait de la pression, dépression. Dans les oreilles, les tympans, ils n'arrêtent pas de pression, dépression en permanence. C'est assez désagréable, très désagréable, d'ailleurs. Et là, quand j'arrive dans la partie, on va dire, encore plus en avant du bateau, et que je ferme la porte, qui est un compartiment étanche. Là, c'est la tranquillité, surtout les tympans qui claquent plus. Là, c'est vraiment reposant. Et puis, je me suis dit, il faut que le temps passe, parce que je savais que, de toute façon, il faut du temps pour venir me chercher. Et puis, voilà, j'essaye de me reposer, tant bien que mal. Ma préoccupation, c'était de réfléchir et d'essayer de prendre les bonnes décisions au bon moment, et surtout dans l'ordre. J'ai estimé que l'hypothermie était quand même la première chose à éviter. Déjà content d'être vivant. Et après, tu sais que de toutes les manières, à 200 000 des côtes comme ça, le bateau à l'envers, c'est mission impossible, donc c'est pas la peine de s'énerver, hein.
Du coup, la consigne m'est donnée par la direction de course de rejoindre la zone où se trouvait Jean, qui était devant moi. Je ne sais plus dire si c'est 100 000, 200 000. C'était loin, mais pas très loin. C'était à une demi-journée de mer de là où j'étais. Certes, il y a du stress, mais on est dans l'action, quoi. On a tous été formés tout petits à cette solidarité des gens de mer. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une nuit extrêmement rapide, peut-être la nuit la plus rapide que j'ai pu faire dans les mers du Sud cette nuit-là. Et je suis arrivé sur la zone où se trouvait VM Materio en milieu de matinée le lendemain. Je me rapproche, je vois ce bateau avec le mât qui traînait au vent, les voiles au vent, le bateau chaviré sans bulbe. Donc je comprends tout de suite pourquoi le bateau a chaviré.
Alors VM Materio, ça y est, je l'ai trouvé. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean.
Sauf que là, quand j'approche du bateau, je savais dès le début que ça allait être compliqué. Je me rends compte que le bateau, il est renversé, mais surtout qu'il a toute la partie arrière qui est immergée. Et là, je dois dire que je me suis un petit peu inquiété. Il n'y avait aucune porte de sortie à ce bateau qui n'était pas sous l'eau à ce moment-là. On était dans un cas de figure où, même s'il était en bonne santé à l'intérieur du bateau, les conditions pour s'extraire allaient être complexes. Et en plus, le fait de voir l'arrière du bateau enfoncé, je savais qu'il y avait de l'eau dans le bateau. Je savais que la température de l'eau était à 2-3 degrés. Je sais qu'il était là au moins depuis une quinzaine d'heures, et 15 heures des pieds dans de l'eau à 3 degrés, ça peut vite faire des situations complexes. J'avais pas trop doute sur le fait qu'il était à l'intérieur, mais dans quel état ?
Donc là, c'était la nuit. Bon, j'étais à moitié dans le... dans un état quand même de fatigue et qui était pas... Bon, j'essayais quand même de me reposer. Quand t'es enfermé comme ça dans le compartiment, tu te dis combien de temps je vais avoir d'oxygène pour respirer. À l'envers, en consommant l'oxygène qu'il y avait dans l'air. Personne ne sait en fait. J'ai entendu, je savais pas trop si je rêvais, j'ai entendu du bruit sur la coque. Et puis là, j'ai entendu la voix de Vincent. Alors je me suis dit, oup, oup, oup. Et c'est là où c'est important que la personne, quand il y a un problème de sécurité, répète les choses, parce que au premier coup, tu peux te dire, est-ce que je suis pas dans un rêve ou... Et donc, la deuxième fois, donc, je savais qu'il y avait du monde autour. Et puis là, j'ai ouvert le passe-coque du speedo. Donc c'est un passe-coque de speedo. C'est en fait, on a des petites hélices qui traînent dans l'eau et qui nous font calculer la vitesse du bateau. On peut les ouvrir par l'intérieur. Et là, j'ai essayé de mettre une fusée parachute. Bon, on va essayer. Et elle rentrait pas dans le trou. Donc c'était diamètre pour diamètre. Donc là, il fallait pas se rater. Donc là, j'ai mis toute la pression que je pouvais. Je tire la fusée. Là, j'aurais bien aimé être dehors, honnêtement, parce que ça faisait une baleine un peu avec une fusée parachute qui sort de la baleine blanche, quoi. Ça devait être joli.
Et la cinquième fois, quand je suis passé, j'étais juste à côté du bateau, et là, j'ai vu sortir de l'avant de la coque une fusée de détresse. J'ai vraiment cru que j'allais me la prendre dans la figure. Elle est passée juste à côté, et là, j'ai dit, bon, c'est bon, c'est sûr, il est vivant, il est dedans, c'est bon, il bouge. Il a failli me tuer, d'ailleurs, il m'a envoyé une fusée à travers la figure, donc ça doit aller.
Donc c'était le brouillard total, tous les fumées de la fusée, voilà. C'est complètement idiot parce que je me suis gazé à l'intérieur.
Maintenant, ça y est, il est au courant qu'il y a du monde dehors. Donc ça veut dire que s'il a une idée sur comment sortir de son bateau, il est susceptible de sortir à n'importe quel moment. Sauf que l'environnement à l'extérieur est hyper hostile. Mon moteur était hors service. Je naviguais à la voile, temps de faire des tours, de virer de bord, de manœuvrer et de revenir, c'était quand même assez long. Entre chaque passage, il se passait 10 minutes, un quart d'heure.
Tout l'arrière du bateau était dans l'eau et la trappe de survie était à l'arrière. Donc là, j'ai essayé de tout dégager, tout ce qui flottait qui aurait pu m'accrocher ou m'handicaper pour sortir. J'ai tout préparé. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, ben, je vais y aller, quoi. Alors là, tu réfléchis, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un dehors. Parce que si jamais tu sors, il n'y a personne, tu ne peux pas rentrer. Et là, c'est pas bon.
Et c'est le moment où j'ai été rejoint sur cette zone par Armel Lecléache. Et ça, ça nous a bien soulagés parce que, bah, à partir de ce moment-là, quand Armel est arrivé, on s'est organisés tous les deux pour chacun à notre tour veiller proche du bateau. Donc, toutes les demi-heures, on tournait. Il y en a un qui restait à côté du bateau et l'autre qui s'éloignait pour téléphoner, pour donner des nouvelles, pour gérer l'organisation de la suite des événements.
Pour moi, le principal danger, c'est le froid et l'hypothermie. C'est à ce moment qu'on s'est organisé, Armel, pour faire des rondes autour du bateau, parce que ma première crainte, c'était qu'à un moment, il essaye de sortir et qu'il n'y ait personne à la sortie.
Du coup, je suis sorti les pieds devant, parce que c'est sûr que si je sors la tête en avant, je ne peux pas m'accrocher nulle part. C'est la chance des singes, ils peuvent s'accrocher avec leurs pieds. Mais nous, on n'est pas foutus comme ça. Ça, c'est une dégénérescence de l'être humain.
À un moment, Armel m'appelle un petit peu en catastrophe. C'était son tour de garde pour me dire qu'il avait eu une avarie moteur et qu'il était obligé de s'écarter et me demander de revenir faire la veille. Et au moment où j'arrive pour faire la veille, je passe donc, comme à chaque fois, au ralenti. J'étais sous grand voile à Trois-Ries, tout choqué, sous le vent du bateau. Et puis là, je vois des taches, une tache rose et deux taches blanches sur l'eau derrière le bateau. Et je dis, tiens, c'est bizarre. Quand je m'approche, je me rends compte que c'était la trappe arrière du bateau et deux cagettes filmées de bouffe. Oups là, là il se passe quelque chose, il est en train de préparer sa sortie.
Donc je sors les pieds devant. Quand tu sors la tête de l'eau de l'arrière, la première vision qui est géniale, c'est que tu vois qu'il y a au réel, il y a un bateau. Il y a du monde autour. Donc tu t'agrippes et les seules choses qui restent, un bateau à l'envers, c'est le safran et l'arbre d'hélice. Donc le plus proche, c'est le safran, donc tu t'accroches au safran.
Il se passe pas 3 minutes derrière que je le vois apparaître dans la vague, parce qu'il arrive de sous l'eau, quoi, et se reposer sur la coque, voilà, et s'accrocher au safran. Jean était sur son bateau, accroché à son safran. Et moi, j'étais là à côté, et comment je fais pour le ramasser, quoi. C'est assez compliqué parce que assez vite je me rends compte qu'il fait le sachet de thé, quoi. Il est accroché au safran, à un moment l'arrière du bateau s'enfonce dans l'eau, il s'enfonce dans l'eau avec, il ressort. Enfin, je vois bien que la situation n'est pas durable, quoi. L'issue de l'histoire est proche mais un petit peu tendue quand même. Là, j'essaye à plusieurs reprises de passer à côté et puis de lui envoyer un bout.
Lui, il essaye de me passer en fait une amarre, un bout, donc il fait plusieurs passages.
Première fois, il attrape le bout, mais il n'arrive pas à se le passer. On avait convenu que tant qu'il n'était pas amarré, tant qu'il n'y avait pas un nœud, il lâchait pas le bateau. Ce qu'il faut voir, c'est que le bateau dérivait avec son mât, ses voiles, et donc le côté où le vent m'aurait aidé à lancer le cordage, était inaccessible. Donc j'étais obligé de lancer le cordage contre le vent. Et même si les conditions météo n'étaient pas très mauvaises, c'était assez compliqué à faire. Donc j'ai fait plusieurs passages. J'étais un peu désespéré de ne pas réussir à justement lui envoyer ce cordon qui aurait permis de l'extraire. Et puis j'ai pris beaucoup de risques. Je me suis rapproché très très fort du bateau.
Et à un moment, je récupère le bout physiquement.
Et donc j'ai réussi à lui passer le cordage.
Et là, je me mets à l'eau. Et Vincent est au winch. Au winch, ce sont des espèces de treuils, voilà, qui marchent manuellement. Il y a une colonne pour optimiser la force humaine. Et donc, il est forcément dos à la route. Donc, il me regarde.
Moi, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il ait réussi à se faire un nœud autour du buste pour tirer dessus et pour le récupérer. Et il se trouve qu'avec son bateau qui bougeait, qui était secoué par les vagues, et le mien, à un moment, il y a eu un rapprochement entre le grand tube en carbone qui sert à tenir mon mât et sa quille. Et puis, à un moment, j'ai entendu crack. Bon, je regardais le cam, je ne regardais pas devant.
Du coup, moi, j'ai la vision de tout derrière. Je vois le bateau qui avance. Il percute l'Outrigger, la grosse barre de flèche, en fait. Et elle casse, évidemment.
Ça a endommagé mon bateau et le mât est tombé sous le vent.
Donc il me regarde et il me remonte comme un maquereau.
Je l'ai accroché à un winch, je l'ai remonté plus vite que j'ai jamais remonté sûrement quelqu'un sur un bateau.
Je remonte à bord, etc., etc. Du coup, le mât du bateau de Vincent était complètement couché sur le côté. Et la barre de flèche sous le vent, c'est comme une rotule, elle était sortie de sa rotule. Et là, on fait le plus bel empannage de ma vie, c'est que moi je garde la rotule dans son emplanture, passant en panne, et là tout le mât se redresse et se met en place. Là, c'est miracle.
L'homme était récupéré et tout le monde était soulagé. C'est vieux quand même. Moi, le souvenir que j'en ai, je suis incapable de vous dire combien de temps ça a duré, mais je dis avoir mis toute mon énergie quoi, à mouliner sur ma colonne pour le remonter. Quoi. C'est sûr que c'était la phase finale, mais dans ces moments-là, il n'y a pas d'hésitation et on donne tout ce qu'on peut donner. Quoi.
Au final, je suis resté 19 heures à l'intérieur. Moi, je suis resté toujours positif, heureusement, parce que sinon... Je pense que je serais pas là. Lui était beaucoup plus stressé que moi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je savais que j'étais vivant. Moi, je savais que j'étais vivant, donc je stressais pas. Par contre, tous les gens à l'extérieur, ils stressaient énorme parce qu'ils pouvaient imaginer que j'étais mort.
À bord, Jean, il a eu un grand relâchement. Hein. J'ai souvenir d'ailleurs d'un jour où j'avais beaucoup de pression pour organiser une visioconférence, la première visioconférence avec Jean Le Cam. Les images sont assez incroyables parce que j'arrivais pas à le réveiller. Il dormait depuis 12 heures et j'arrivais pas à le réveiller. J'avais beau le secouer, j'arrivais pas à le réveiller. Et puis à un moment, il s'est réveillé. Alors au début, j'y allais mollo, quoi. J'y allais tranquillement et puis je les faisais patienter. Et puis à un moment, il s'est réveillé et il est venu devant la caméra. Et...
Ah bah oui, forcément, j'avais fait un interview. Je ne m'en rappelle même plus, mais j'étais complètement dans le pâté. Donc,
Il avait une tête ahurie complète. Il ne savait plus où il était, il ne savait plus où il habitait. Et puis il s'est retrouvé devant la caméra.
Ça va comme quelqu'un qui vient de se réveiller depuis 10 minutes et qui... Il avait besoin de beaucoup dormir. Et voilà comment ça va à peu près.
J'ai souvent eu des regrets quand j'étais contraint à abandonner sur des courses. Mais cette fois-là, non, voilà, ça fait partie de la vie des marins. On sait quand on part faire des courses comme ça, à n'importe quel moment, on peut être amené à mettre notre course en parenthèse, voire même à abandonner notre course pour sauver un concurrent. Donc c'est un petit peu la seule excuse qui ne nous laisse pas de regrets.
J'ai mis les pieds dehors et puis je suis sorti. J'ai levé la tête et là j'ai vu Vincent. Et là, un moment.
Je pense qu'après, on n'en a jamais reparlé, quoi. C'est vrai que c'est une histoire assez incroyable, assez dingue. Et puis le fait que ce soit bien terminé, aujourd'hui, ça reste une belle histoire. Mais voilà, la vie continue. Quand on se croise avec Jean, on se parle de nos histoires de bateaux d'aujourd'hui, quoi, pas de nos histoires de bateaux d'hier.
L'histoire pourtant ne s'est pas arrêtée là. Alors que Vincent est en route pour déposer Jean en Argentine, le mât de son PRB fragilisé lors du sauvetage se brise. Obligé de s'arrêter, puis d'abandonner la course qu'il avait remportée 4 ans avant, Vincent Rioux sera finalement classé 3e ex aequo par la direction de course. Le 1er décembre 2020, par un étonnant retournement de situation, C'est Jean Lecam qui, à son tour, va jouer les Saint-Bernard, en se portant au secours de Kevin Escoffier, dont le bateau venait de se casser en deux. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la série Sauvé, un podcast produit par l'équipe Explore. À la technique, Roland Richard et Antoine Bourlon. À la création graphique, Maxime Maléco. Au montage, Roland Richard. Un entretien effectué par Rémi Fier, avec une réalisation et une musique originale signée Théo Boulanger.